Radio Republik Indonesia dengan aneka berita dibacakan oleh Maulana Aksan.
Écoute, ce sont les bruits du monde. Une heure de musique des quatre coins du monde.
Mangkoto yai, yai pate, kolo setio.
Écoute les bruits du monde. Bruit du monde par principe actif.
Par principe actif.
Shinarati, tomorrow? You? You are Nepali?
No.
Okay. It's not for picture. It's for sound.
My name is Ronit.
Not too high.
My name is Ronit.
My name is Barsa.
Dangerat.
बोल दे दिया
हां
Eh ben bonsoir à toutes et tous. Bienvenue dans les bruits du monde, l'émission qui prête une oreille attentive aux brouhahas, aux musiques et à la poésie de notre vaste monde. Nous consacrons ce programme de ce soir à l'Himalaya, notamment au Népal. Pour m'accompagner dans cette nouvelle aventure, vous retrouverez Manon, Vivien et Laurent. Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir Lord Pignon.
Bonsoir.
Bon, on devait également accueillir quelqu'un qui voyage régulièrement au Népal, une personne que certains auditeurs de Principe Actif connaissent déjà bien, c'est le photographe Frédéric Grimaud. Je pense qu'il arrive dans les studios, on entend des bruits de porte, il ne devrait pas tarder en tout cas à venir jusqu'à nous. On parlera photographie, on parlera évidemment de ses séjours au Népal, parce qu'il y a eu plusieurs voyages, et puis les petits sons qu'on écoutait en intro. C'est aussi des choses que lui a captées, donc on pourra revenir avec lui voilà, sur ce qu'on écoutera comme enregistrement qu'il a ramené de là-bas. Vivien, pardon. Ah oui, oui, mais en fait, il y a eu une inversion.
Il y a un échange de micro.
Ouais, il y a eu un piège.
Le contexte de ce qu'on a entendu, oui.
Mais j'espère qu'on aura l'occasion de développer ça avec lui. On l'attend incessamment sous peu. Je vous propose d'écouter une première pause musicale avec un choix de Vivien, notamment pour ouvrir.
Alors s'il y a marqué dessus ce que c'est, ça m'arrange.
Gendun.
Et c'est tiré des compilations Tibet Libre. Voilà, qui regroupait bon nombre de DJ et de groupes, on va dire, de rock ou de reggae français du début des années 2000 en soutien au Tibet.
Et puis on parlera avec vous cinéma, avec un film.
Il me semble l'unique film tourné au Bhoutan dans l'histoire du cinéma.
Qui s'appelle Voyageur et magicien. Oui. Voilà, on parlera cinéma également avec vous, Manon. L'Himalaya, l'enfance d'un chef, c'est bien ça?
Oui, voilà, c'est ça.
On en écoutera un extrait. Et je vois aussi que vous avez ramené un bien joli livre. On aura l'occasion voilà. De parler littérature également.
Un tout petit peu, oui, voilà. Bon, littérature, voilà, peut-être pas exactement, mais du moins, d'une femme qui a longuement voyagé en Himalaya.
Très bien, et puis on agrémentera tout ça évidemment de musique, comme d'habitude, et également j'ai dégoté sur un très très vieux disque qui a été réédité par Frémo et Associés, un voyage à Katmandou, alors c'est un disque en deux parties, il y a de la musique sur le premier disque, sur le deuxième disque il y a des interviews, notamment du consul français à Katmandou, ça date de 1969, voilà, je vous en dis pas plus, on écoutera ça tout à l'heure, et puis également également un extrait d'un documentaire vidéo qui relate les aventures, d'un trek, en gros, dans l'Himalaya. On verra bien ce que là où ça nous mène au cours de cette émission. Vous êtes bien dans les bruits du monde, vous êtes bien sûr Principe Actif, et on est bien là.
les bruits du monde par principe actif. Alors, on vient d'écouter la bande-annonce du film Himalaya, l'enfance d'un chef, et on va vous en parler un peu plus avec vous, Manon, notamment. Si ça vous va bien. Alors, qu'est-ce que ça raconte dans ce film ?
Alors, donc déjà, c'est un film qui est inspiré en fait d'un roman pour enfants de Brizup Helen Evelyn, donc du même titre, hein, Himalaya, l'enfance d'un chef. Alors, pour vous donner un petit peu le résumé. On a donc Tinley, hein, ce personnage principal qu'on entend dans la bande-annonce, parler donc dans sa langue. Hein. Il apprend donc, avec le retour de la caravane, la mort de son fils sur la route du sel. Donc c'est quelqu'un d'un âge très avancé, et donc il décide de reprendre la conduite de la caravane pour ne pas laisser donc, son petit-fils reprendre la place de chef. Il est beaucoup trop jeune, bien évidemment. Après, il y a donc un autre jeune qui s'appelle Karma, qui lui voudrait devenir le chef du village. Mais Tinley, pour lui, Karma est responsable de la mort accidentelle de son fils. Et donc, il décide, Tinley, hein, malgré son grand âge, en fait, de partir tout de même faire cette route vers le sel, hein, pour retrouver le sel, parce que là-bas, en fait, au Dolpo, les gens vivent surtout du commerce du sel, c'est-à-dire qu'ils ont très peu de denrées, hein, ils n'ont pas grand-chose pour vivre. Et donc, leur seul moyen de subsistance, c'est d'aller récupérer du sel, en fait, au Tibet, et puis ensuite d'en faire l'échange, en fait, au cours d'un autre voyage contre des graines qui vont ensuite leur permettre de subvenir à leurs besoins et de faire quelques plantations. Mais ils n'ont vraiment pas grand-chose, en fait. Donc on va avoir donc ce vieillard qui décide de partir, malgré son âge avancé, faire cette route du sel. Et en parallèle, on a donc un jeune qui s'appelle Karma, qui lui voudrait être chef, hein, prendre la place du fils de Tinley qui vient de mourir. Et donc il va y avoir deux voyages, en fait, qui vont partir à peu près en même temps, sauf que le jeune Karma, lui, il va partir donc quand bon lui semble, sans s'occuper, on va dire, des pratiques ancestrales. On voit beaucoup dans le film les pratiques ancestrales de ces peuples. Les personnes d'un âge avancé, eux, ils font tout un ensemble de calculs pour savoir à quel moment partir par rapport aux astres, etc. Donc on voit toutes les pratiques, on va dire, un petit peu religieuses qui sont à la fois entre le bouddhisme et l'animisme. Mais lui, Karma, qui veut vraiment devenir chef, lui, il part bien avant ce que les chamans, on va dire, conseillent. Il va entreprendre donc ce voyage, et puis Tinley, lui, donc le vieillard, va partir un petit peu plus tard, et donc on a, on va dire, un espèce de... On a donc ces deux voyages en parallèle, en fait, au cours du film. Et puis le but de Tinley, du vieillard, c'est vraiment d'arriver finalement, malgré tout, avant Karma, même s'il est parti plus tard. Et on va voir donc que lui, en fait, en suivant, on va dire, la volonté des chamans, il va finalement réussir à trouver un raccourci et à arriver finalement à rejoindre, on va dire, à rattraper Karma, qui est pourtant parti bien avant. Alors lui, Karma, étant jeune, etc., il a réussi à rallier à sa cause la plupart des jeunes du village. Tinley, lui, va partir avec une toute petite caravane, hein, il va partir avec son petit-fils, avec très peu de personnes finalement. Hein. Mais donc on a en tout cas ce qui est intéressant dans le film, hein, à la fois le conflit de génération entre Karma qui lui finalement n'a pas tellement envie de croire aux superstitions des anciens, et puis on a donc par contre Tinley, hein, ce vieillard qui lui a toujours été on va dire a toujours honoré la nature, honoré le savoir des anciens, les savoirs ancestraux, etc. Donc il y a un vrai conflit générationnel dans le film qui est intéressant. C'est un film qui est un petit peu entre le documentaire et la fiction. On peut parler un peu de docu-fiction, puisqu'on a quand même des vrais acteurs, mais néanmoins aussi les gens donc, d'un village du Haut Dolpo, hein, donc, au Népal, qui ont été filmés. Hein, ce sont des vrais villageois. Donc c'est un petit peu un film à cheval entre les deux, entre le documentaire et la fiction. On voit comme, un petit peu comme le film dont on a parlé il y a deux semaines qui se passait en Mongolie. On a encore à peu près le même genre de film finalement où on voit beaucoup la manière dont vivent les gens au quotidien. Et l'essentiel bien sûr c'est leur manière de subvenir à leurs besoins et cette difficulté on va dire à se procurer les denrées essentielles pour tout simplement vivre et s'alimenter. Et donc qui les pousse, hein, continuellement, et ça c'est une réalité au Dolpo, hein, c'est vraiment la manière dont vivent les gens actuellement. Ça les pousse donc, ça les oblige à aller chercher donc du sel au Tibet dans un premier temps, à le ramener et puis ensuite à aller l'échanger au cours d'un second voyage que l'on voit là contre des graines qu'ils vont ensuite pouvoir planter, sachant que l'essentiel de leur alimentation, elle est vraiment très pauvre, hein, j'avais une petite référence là-dessus que j'ai retrouvée dans mes... Voilà. On nous dit dans un article que l'alimentation manque cruellement de variété. Ils mangent surtout donc au Dolpo de la farine d'orge grillée qu'on appelle tsampa. Et puis après, bien sûr, du thé salé au beurre de yak. Mais voilà, tout ça, toutes ces denrées-là, c'est vraiment, ils sont vraiment, on va dire, en autosuffisance. Hein, et il n'y a que cet échange du sel contre des graines qui leur permet d'avoir la base de leur alimentation à base d'orge, finalement. Donc en tout cas, les conditions de vie sont vraiment rudes. Hein, dans plusieurs articles autour des conditions de vie au Dolpo, on nous en parle, de cette dureté, notamment à cause du climat, etc. Ce sont essentiellement des agriculteurs et des éleveurs, hein, et on le voit dans le film, hein, c'est vraiment la base de leur autosuffisance, hein, c'est l'agriculture, mais qui n'est pas du tout variée, et puis bien évidemment l'élevage de yak. En tout cas, c'est vraiment un film que je vous incite à voir, parce que il est vraiment beau, c'est proche, on va dire, du conte. Il y a une espèce de... comme un conte, un petit peu, comme une légende. Il y a un côté vraiment énigmatique dedans, hein, une espèce d'ambiance comme ça, très intéressante. Il parle aussi dans certains articles de western tibétain. Ils disent que c'est le premier western tibétain. Avec donc, comme je le disais, vraiment l'importance de la rivalité entre les hommes, la lutte pour le pouvoir, le conflit des générations. Il y a plein de thèmes que l'on voit, hein. La famille, la rivalité masculine. On parle aussi de voyage initiatique, d'une histoire vraie avec cette guerre des chefs sur fond de rivalité entre deux familles. C'est à la fois entre la légende, le film d'aventure, et puis il y a bien sûr aussi tous ces paysages magnifiques du Haut Dolpo qui permettent vraiment de s'imprégner, on va dire, de l'ambiance de ce pays vraiment magnifique. Donc c'est un film superbe à voir. Alors sur grand écran, je me rappelle avoir vu étant vraiment enfant au cinéma, c'était vraiment superbe. Sur petit écran, j'ai pu le revoir avant l'émission. Ça reste tout de même magnifique, même si c'est vrai que sur grand écran, c'est vraiment impressionnant. C'est un vrai voyage que l'on fait dans cet endroit complètement reculé du Népal, où très peu de touristes c'est difficile, on va dire, d'y avoir accès. Il y a des treks actuellement, hein, qui permettent de découvrir le Dolpo et le Haut Dolpo, mais c'est très difficile, on va dire, d'y accéder. Et pendant des années, en fait, c'était très compliqué pour les étrangers, notamment dans les années 60, de s'y rendre. Je ne sais pas si c'est le moment de faire cette petite référence ou pas. On peut peut-être le faire tout de même. À Alexandra Davinel.
Allons-y,
ouais. Donc il y a Alexandra Davinel qui est donc une femme qui est très connue dans l'univers du bouddhisme, hein. Elle était complètement passionnée par le bouddhisme et par l'Himalaya. Elle a entrepris donc de nombreux voyages au Népal à une période justement où c'était complètement interdit à la plupart des étrangers, notamment aux femmes. C'était compliqué en tant que femme européenne d'accéder donc dans ces contrées reculées. Elle a écrit plusieurs ouvrages sur la culture tibétaine, bouddhiste, etc. Donc notamment un qui, puisque notre thème quand même ce soir c'est l'Himalaya, mais surtout le Népal, elle a écrit un livre qui s'appelle Au cœur des Himalayas, et donc sur les chemins de Katmandou à la recherche de l'Inde millénaire et secrète. Donc il y a vraiment énormément de références à la culture népalaise, beaucoup de descriptions de Katmandou, des traditions, etc. Et puis il y a quelques petites références intéressantes que je me permets simplement de vous lire pour vous montrer un petit peu la difficulté à l'époque d'entreprendre ce genre de voyage. Notamment pour les étrangers. Donc il y a un petit dialogue à un moment avec un Népalais qui l'aide, hein, on va dire, dans son voyage. Donc elle parle, donc c'est Pasang, hein, c'est celui qui la suit donc dans ce voyage. Donc il lui dit la chose suivante: nous allons, me dit-il, prendre la route que l'on fait suivre aux voyageurs étrangers, non seulement aux occidentaux, mais à quiconque n'est pas népalais. C'est une route difficile, il faut franchir deux cols et les montées et les descentes sont chaque fois extrêmement raides. Les voyageurs voient ainsi combien l'accès du Népal est fortement défendu. Cela leur ôte toute idée de songer à l'envahir, mais il existe un autre passage entre les montagnes. Au lieu de traverser les deux hauts cols, on peut suivre des sentiers qui les contournent en serpentant dans les vallées. Les paysans de la région parcourent ces chemins à pied. Il leur est défendu sous peine de mort de guider aucun étranger de ce côté. Donc c'était vraiment très compliqué à cette époque-là. Et puis, alors c'était assez étonnant aussi, hein, parce que cette femme, elle voyage en fait... donc c'est vraiment une aventurière, on va dire, en avance sur son temps, sur son époque. Hein. Elle se retrouve à voyager dans une espèce de chaise qui est portée par des sortes de sherpas, en fait, simplement. Hein. La plupart du temps, en fait, elle est portée dans une chaise, voilà. Et malgré le fait que les sentiers soient très compliqués, en fait, elle parle un petit peu de ce voyage chaotique où parfois elle voit pas bien où elle va, hein, portée comme ça, et elle sent que le chemin est compliqué. C'est assez amusant. Donc ils appellent ça le dandy, un petit fauteuil placé dans une légère armature de bambou recouverte de toile cirée. Donc elle voyage comme ça, en tout cas dans ce voyage, hein, au cœur de l'Himalaya sur les chemins de Katmandou. Hein. Donc il y a pas mal de passages assez amusants, hein, par rapport aux conditions de voyage dans le livre. Et puis une dernière petite référence, toujours par rapport à cette difficulté à voyager pour les étrangers. Il y a donc un Népalais qui lui demande: êtes-vous ici toute seule? Ce toute seule est significatif. Je ne dois pas me promener seule au Népal. Je ne l'ignore pas, mais je ne vise qu'à éluder cette servitude à laquelle d'autres voyageurs, favorisés comme moi de la permission d'entrer dans le pays, se sont soumis sans résistance. Moi, j'ai mauvais caractère. Je n'admets pas les entraves à ma liberté. Quelle lutte, quelle lassante et prolongée élaboration de ruse il m'a fallu pour parvenir à franchir les barrières que l'on a prétendu m'imposer au cours de mes voyages. J'ai presque toujours réussi, toujours quand le but à atteindre en a vraiment valu la peine. Donc on voit vraiment que c'est quelqu'un, on va dire pour l'époque, enfin une femme forte, hein, avec un sacré caractère aussi, hein. C'était forcément très difficile pour un étranger dans tous les cas de réussir à avoir l'autorisation de visiter le Népal à l'époque, et pour une femme je pense d'autant plus. Donc c'est vraiment un personnage à découvrir, Alexandra Davinel. Elle avait aussi écrit un carnet de voyage, aussi un carnet de route, vraiment sur le Tibet, qui était aussi interdit aux étrangers à l'époque. Hein. On sait si certaines personnes aussi ont pu peut-être voir le film avec Brad Pitt, 7 ans au Tibet. On voit tous les gros problèmes historiques qu'a pu subir le Tibet, notamment avec la Chine, etc. Et donc pour elle aussi, ça a été compliqué d'accéder au Tibet à l'époque. Et donc ça c'est aussi un de ses ouvrages qui est très intéressant. Voilà. Donc je vous conseille en tout cas de voir à la fois Himalaya, l'enfance d'un chef, pourquoi pas 7 ans au Tibet, hein, qui permet quand même de manière beaucoup plus hollywoodienne de voir Brad Pitt, mais aussi quand même le Tibet, du moins d'avoir peut-être envie de voyager dans l'Himalaya. Et puis pourquoi pas lire un ouvrage d'Alexandra Davinel, qui est vraiment une référence dans les aventurières. Voilà, on avance sur son époque.
Alors pour faire le lien notamment avec Himalaya, l'enfance d'un chef, qui se passe dans la région du Haut Dolpo, vous nous aviez également retrouvé, Manon, un extrait vidéo qu'on a monté d'un trek dans cette région-là, la traversée. Ça se passe plus précisément sur le lac, autour du lac Rara. On écoute ce petit extrait, ce long extrait d'ailleurs, vidéo en radio. J'aime bien.
Mon projet consistait de partir du lac Rara, oui, en passant par le Haut Dolpo, oui,
Ça te plaît? Ça te plaît?
Oui. Alors, depuis le tour de la Crara, vraiment, on est dans des secteurs où on rencontre vraiment personne, il n'y a aucun trekker. Et les chemins pour passer l'école sont vraiment très difficiles. Il y a beaucoup d'endroits, il y a plus de 80% sans chemin. Il y a très peu de traces de passage, même des gens du pays. Et parce que bon, le cadre est vraiment fantastique tout le temps, mais ce qu'il y a, c'est que les premières parties sont vraiment très difficiles. On passe dans des coins abominables, de pierre en pierre, on saute pendant des heures, on arrive à la frontale, et puis les rivières, il n'y a pas de pont. Aujourd'hui, coup de chance terrible, avant de passer encore un col à 5004, qu'est-ce qu'on rencontre? Des Tibétains qui arrivent dans le sens inverse, qui viennent de passer à Chegrompa, qui sont passés à Fogaon, et puis qui aujourd'hui nous rencontrent en ayant passé le col à 5004 sous la pluie, avec un peu de neige dans le col, sans problème.
Et qu'est-ce qu'il dit?
C'est bon.
C'est tout bon, chemin. Bon.
D'accord. Bon, chemin. Col du Yayala.
So.
Should they put stones on top?
Yeah.
Yep. Yeah. Okay.
It's good luck.
Good luck. Okay.
Oh God. Okay.
Well done, everyone. Good.
Daraka Chou, c'est traversé le col.
Ah, on a traversé le col. D'accord. On est content d'avoir traversé le col, hein. Et puis c'est pas fini l'école, il en reste encore une série, hein.
Et bateau Ramrotsa.
Bateau Ramrotsa, le chemin est très bien.
C'était beau.
Aujourd'hui, nous partons à direction Bijegon. Pas ici.
C'est bien de, avec le soleil, enfin, mais ça chauffe un peu. Mais les vues sont spectacle. Nous avons de la chance parce que tout va bien.
Oui, ça va? Du beau temps. Heureusement, si on arrive bientôt au camp, je vais laver mes choses.
D'accord.
Pour la première fois dans 10 jours.
Salut Jacques.
C'est bien Henri.
Salut. Wow.
All Tibet. Tibet. This is an amazing place. C'est un endroit incroyable.
Bon, depuis 2-3 jours là, on est vraiment en culture tibétaine. Plein de gompas, des shortens, des canis. Ce que j'ai rarement vu, c'est de voir des drapeaux tibétains flotter alors qu'on est dans la partie Népal. Ça, c'est encore plus fort parce que on sent vraiment qu'ici, c'est le Tibet, quoi.
Voici un chorten, où c'est obligatoire de passer à gauche. Alors, plus bas dans le village, il y a un très grand chorten. Mais la rivière a changé son direction. Maintenant, c'est impossible à passer à gauche. Alors, passant notre shop nous a dit que c'est obligatoire maintenant que le village bouge toute le chorten jusqu'au point qu'il y a encore un passage à gauche. Incroyable.
Ok. Sandang. Sandang. Il y a une chose qui est
là. Chidele.
Chidele. Tibétain, allez, Sandang.
Il va à Sandang comme nous.
Dui Tinganda.
Dui Tinganda, 2 heures.
C'est 750
ouais,
années old. Et puis ça a tombé en ruine. Et puis un grand lama a convoqué le village pour les convaincre de le refaire et de le maintenir. Et c'est toujours en train d'être réparé.
Dans la village, il y a beaucoup de chances de sagazan où les gens ont tapé ici. les gens cultivent pour faire la samba. La samba se mange au petit déjeuner.
Bye bye. Bye
bye. Le trek qu'on vient de parcourir là, depuis les Lacrara jusqu'à Fogaon, donc la partie haute du Odolpo, qui est très très peu parcourue, même par les habitants. On n'a rencontré quasiment personne jusqu'à Saldang. Très difficile aussi à parcourir parce que les cols sont mal marqués, c'est des passages qui sont très longs. Autrement, c'est magnifique. Et là, bah, on va continuer, on a continué jusqu'à Jomsom.
जय जय सुर नायक जन सुखदायक पणत पाल भगवंता रोज जहितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मर मन जाने कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करो अनुग्रह सोई जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंता अभिगत गोती तं चरण पुनीतं माया रैतम कुंदा जही लाग विरागी अति अनुरागी विगत मोहमन बृंदा निशिबासर ध्यावै गुण गण गावै जय अति सचितानंदा जय सृष्टि उपायी त्रिविध बनाई संग सहायन दूजा सही करवदारी चिंता मारी जानिए भक्तिन पुंजा जो भव भय भंजन मुनि मनोरंजन गंजन विपति बिरूठा मन बच कर पानी छाड़ी सयानी शरण सकल सुर झूठा शारद सत से कर सैया से खा जाकों कोई नहीं
Un chant sacré Shivaratri, enregistré par Frédéric Grimaud en 2010. Les bruits du monde par principe actif.
Dans le lointain royaume du Bhoutan, un homme rêvait d'une autre vie.
Ah ouais,
ouais, ouais.
Tiens, aime ton aîné, cargue le ciment.
Elle est belle.
Il prit la route pour que son rêve devienne réalité. Mais il y a des voyages que l'on ne peut faire seul. Après la coupe, Kiense Norbu nous entraîne dans une aventure magique dans les paysages grandioses du Bhoutan.
Comme ça.
Voilà, avec, sur la musique du dernier Disney. Non, ça aurait pu presque. Non, on parle encore cinéma avec vous, Vivien, voyageur et magicien. C'était l'extrait qu'on vient d'écouter.
Oui, le film annonce, comme on dit au Québec. C'est, je crois, le seul film qui a été tourné dans un pays qui s'appelle le Bhoutan, par un réalisateur, je crois qu'il est bhoutanais, qui s'appelle Kiense Norbu, qui est en fait un lama. Qui a été reconnu, alors il y a marqué ça sur sa fiche, sur sa bio. Hein. À l'âge de 7 ans, il a été reconnu comme la troisième incarnation de Jamyang Khyentse Wangpo. Et donc, bah, il est sur une, comme ça, une lignée de lama. Sauf que lui, il a étudié à Londres le cinéma. Et que du coup, il a fait pour l'instant 3 films. 2 ont été visibles en France. Il y a eu un film qui s'appelait La Coupe, qui parlait de... Alors ça, là, ça se passait au Tibet, il me semble. Ça parlait d'un monastère qui se passionnait pour la Coupe du Monde de football. Et alors celui-là, Voyageur et Magicien, moi, je le conseille vraiment à tous. Manon parlait tout à l'heure un peu des légendes. Là, on est vraiment là-dedans. C'est un film de 2003, où déjà on découvre ce pays, le Bhoutan, qui a été jusqu'à récemment un pays très très fermé, où les étrangers pouvaient pas venir. Et ça croise plusieurs deux histoires et deux périodes. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Dundup, un jeune homme, qui rêve des États-Unis. Je crois que pour lui, la modernité, il écoute Madonna, il a envie de partir, il a un radiocassette, enfin, c'est le jeune moderne du village. Et il a envie de partir, il lui faut un visa, donc il doit aller à la ville. Il prend un bus, et là il se retrouve avec une jeune femme et un moine. Et le moine va lui raconter une histoire, l'histoire d'un jeune fermier qui voulait aussi changer de vie, mais qui finalement a rencontré la femme de sa vie et qui a croisé en même temps des choses liées à la sorcellerie et aux croyances. C'est un film vraiment onirique avec, pareil, des très belles images et puis ce pays, le Bhoutan, qui est vraiment, vraiment splendide et complètement inconnu. Sur la page du film, on peut lire différentes choses. Hein. Il y a, par exemple, une citation de l'acteur principal du film qui dit quand même « Peu de personnes savent situer le Bhoutan, et d'ailleurs, ce n'est pas grave. » J'aime beaucoup ce genre de citation.
Nous aussi, hein. Ça fait rire tout le monde en plateau.
Mais faut savoir que
c'est la touche humoristique de Vivien.
C'est un pays qui était une monarchie. Je crois qu'il est en train d'organiser une démocratie, puisque le prince, futur roi, est pareil, parti étudier en Angleterre et va organiser des élections, ou a organisé déjà des élections dans son pays. Et chose intéressante aussi, puisque c'est un des grands pays bouddhistes, ils ont choisi de ne pas calculer le produit national brut. Mais le bonheur national brut. Oui, alors je sais pas ce que ça donne, mais c'est une idée intéressante.
On ne sait pas encore à quoi ça ressemble, quoi.
Non. Puis quels critères, je sais.
Alors c'est pareil. Il y avait un Français qui, dans les années 60 aussi, avait visité le Bhoutan, mais pareil, c'était interdit à l'époque. Il s'appelait Michel Pessel. Il a écrit pas mal aussi de livres, un petit peu comme Alexandra Davinel. Où c'est assez intéressant aussi. Et il y a un livre notamment, qui s'appelle Le Bhoutan. Royaume interdit, quelque chose comme ça. Il a fait aussi la même chose sur le Mustang, qui se trouve aussi d'ailleurs au Népal. Donc c'était une autre référence par rapport à Alexandra Davinel. C'était assez intéressant aussi. Et puis oui, tu parlais d'un film qui était aussi proche de la légende, etc. Et là, ça me fait penser à un autre film qui est tourné au Ladakh Zanskar. Au Ladakh, d'ailleurs, plutôt. Ça fait partie de l'Inde. C'est une région, en fait, du nord de l'Inde qui est bouddhiste, complètement bouddhiste, donc perché aussi à peu près à 3000 mètres, 4000 mètres d'altitude en plein Himalaya. Ce film, c'est Samsara, et c'est vraiment une très belle histoire aussi, avec un moine, en fait, un jeune moine, qui du coup ne sait pas s'il va finalement prononcer ses vœux, hein, s'il va véritablement décider d'être moine, parce que c'est comme un étudiant, un novice, je ne sais plus si on peut utiliser ce terme-là. Et donc il sait pas du coup pourquoi, enfin ce qu'il va choisir, quelle va être sa voie. Et donc on lui propose, en fait, de quitter un petit peu le monastère et de faire le point sur sa vie et sur quel chemin il décide de prendre. Est-ce qu'il décide finalement d'être moine, ou est-ce qu'il décide finalement de se marier, d'avoir des enfants, etc. Et donc on voit à la fois toute la culture du Ladakh, le fait que dans la plupart aussi des... C'est intéressant de savoir que dans la plupart des... Donc dans l'Himalaya, dans la plupart des pays, on va dire, bouddhistes de l'Himalaya, c'est vraiment une société qui ressemble un petit peu à la société, on va dire, du Moyen-Âge, sachant que chaque famille va avoir donc plusieurs enfants, enfin qui a plusieurs enfants, va avoir un enfant qui va s'occuper des terres, à qui on va finalement transmettre les terres, un enfant qui va faire parler, qui va finalement choisir l'armée, et puis un autre enfant qui va, que ce soit un garçon ou une fille, hein, qui va donc rentrer au monastère. Et c'est souvent Ça, c'est vraiment à peu près comme notre société finalement moyenâgeuse. Pour avoir voyagé moi-même au Ladakh Zanskar, c'était vraiment une expérience intéressante. J'ai pu faire un trek là-bas. Et on voit vraiment que c'est une société complètement organisée comme ça, avec chaque personne, chaque famille va donner un enfant pour l'armée, donner un enfant pour la religion finalement, et puis transmettre à un enfant la terre. Et on voit par contre que c'est une société où la place de la femme est très compliquée, malgré, on va dire, notre angélisme en Europe à dire que la religion bouddhiste est merveilleuse, qu'elle est très philosophique, etc. On a tendance un petit peu à mettre sur un piédestal cette religion-là, mais malheureusement, il y a aussi une partie vraiment sombre dans cette religion. On voit que la place de la femme est très compliquée en fait, et la femme est là juste pour, comme dans beaucoup de pays malheureusement, pour finalement assurer, on va dire, la survie de l'espèce. Et puis même si on parle parfois de société matriarcale, etc., en réalité c'est juste qu'il n'y a pas assez de femmes, et elle se retrouve finalement mariée à toute la fratrie pratiquement. On voyait vraiment les conditions des femmes là-bas, c'était assez atroce. Notamment dans un village au fin fond du Zanskar. Le Zanskar et le Ladakh, ça fait partie de l'Inde. Autrefois, c'était pareil. Je crois que dans les années, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était encore indépendant, puis ça a été rattaché à l'Inde après. C'était un trait qui finalement terminait presque un peu en voyage humanitaire, parce qu'on voyait vraiment que les gens n'avaient aucun accès aux soins médicaux. Et il y a notamment une femme qui a malheureusement fait une fausse couche pendant le voyage, et on avait une infirmière, on va dire, dans le groupe qui finalement a apporté les premiers secours à cette femme-là, qui pouvait après finalement recevoir des vrais soins médicaux que plusieurs jours plus tard avec un médecin qui allait arriver de je ne sais où, mais qui allait mettre énormément de temps à arriver jusque-là, ou alors il allait falloir la transférer je ne sais comment dans la première ville accessible du coin. Enfin, c'est très 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 compliqué. Il y a peu d'hygiène là-bas, plus d'accès, on va dire, à l'hygiène et aux produits, surtout comme le savon, etc. C'est des denrées finalement pas si évidentes que ça à avoir. Donc pour revenir à ça aussi, la place de la femme est très compliquée, parce qu'en fait, en gros, la belle-mère en fait lui fait vivre une vie atroce en fait. Comme elle-même, elle a subi de sa propre belle-mère, on va dire, une vie très compliquée. Et elle impose, on va dire, son mode de vie aussi à sa belle-fille, et ça se transmet comme ça. Et en tout cas, la place de la femme est très compliquée. On a pu vraiment le remarquer. Alors ça commence j'y suis allée il y a 5 ans à peu près. Le Ladakh Zanskar, ça commence un petit peu à se développer, dans le sens où il y a une route qui était en train d'être construite il y a 4-5 ans. Je ne sais pas maintenant où elle en est actuellement, si elle est bien avancée ou terminée. Mais on voyait vraiment les gens, en gros, casser des cailloux sur le bord de la route, à main nue. Enfin, c'est vraiment quelque chose qu'on ne voit plus, on va dire, en Europe depuis je ne sais combien de décennies. Je veux dire, c'est complètement un pays qui est... Enfin, au niveau des modes de vie, c'est vraiment très compliqué. Au niveau accès à des choses qui, pour nous, sont très simples et très évidentes, pour eux, bien évidemment, c'est beaucoup plus compliqué. Donc après, voilà, cette nouvelle route, beaucoup de gens disent, par exemple, ça fait penser un petit peu à ce que disait Coluche, la misère, c'est beau, surtout quand c'est bien fait. Alors, il y a pas mal de gens qui vont dire, ça va perdre en authenticité, ça va perdre en culture authentique, etc. Mais en même temps, voilà, si ça leur permet, on va dire, d'accéder davantage aux soins médicaux, et que ça leur permet d'accéder finalement à une vie un peu plus simple, on peut finalement que espérer que malgré tout il y ait cette route. Même si, pour conclure, et je terminerai avec ça, pour en revenir, refaire un petit peu le lien avec le film dont je parlais tout à l'heure, Himalaya, l'enfance d'un chef, qui se passait donc au Dolpo, ils disent tout de même que les routes, ça peut devenir aussi un problème, par exemple pour le Haut Dolpo. Les routes envahissent de plus en plus les contrebas himalayens, et le transport du sel indien par camion risque d'altérer le commerce du sel tibétain. Si tel est le cas, le Dolpo sera confronté à des problèmes de ravitaillement cruciaux. Donc voilà, c'est toujours ce qui est compliqué, on va dire, entre l'accès, on va dire, au développement et à la modernité, et puis les coutumes ancestrales et les habitudes ancestrales. Voilà.
On repart en musique, si ça vous va. Thank you.
c'était en lien avec le film Voyageurs et magiciens, tourné au Bhoutan, puisque je disais que c'était un des grands pays de bouddhistes, où j'ai lu qu'il y avait plus de moines que de soldats dans ce pays-là. Donc là, c'était tourné dans un monastère, c'est des nonnes, et c'est un chant de guérison.
Merci. Je vous en parlais tout à l'heure, on va écouter un petit extrait d'une interview. Alors ça date des années 60, 1969 si j'ai bien tout saisi. Il s'agit d'un reporter pour Europe 1, François Jouffat. Et là on va écouter un extrait, alors tout le disque, c'est l'intégralité de l'échange, on va en écouter qu'un extrait, avec Daniel Omnes qui était le consul de France à Katmandou à ce moment-là. L'entretien s'est passé dans le bureau de l'ambassade. Il est en poste depuis 1967 et il offrait l'aide de la République aux beatniks et hippies en difficulté morale et financière. À 28 ans, avec ses lunettes à monture d'acier, ce jeune diplomate ressemble à un pion bienveillant de lycée. Juste après mai 68, il a assisté au débarquement dans la capitale du Népal d'étudiants désorientés en quête d'un ailleurs et d'un absolu en Orient, mais qui ont vu leurs illusions se fracasser contre les murs de l'Himalaya. Je vous propose donc d'écouter cet échange réalisé par François Jouffat.
5-4-3-5-4. Vous êtes-vous ici depuis combien de temps ?
Moi, je suis depuis 20 mois, depuis décembre 67, exactement.
Attendez, excusez-moi. Un petit peu plus fort, là. Depuis 20 mois.
Oui.
Et j'imagine que, contrairement à certains consulats un petit peu tranquilles à travers le monde, vous avez beaucoup de travail. Je vois sur votre bureau un certain nombre de lettres, de dossiers, de papiers.
Oui. Effectivement, ce sont des affaires assez particulières, en sorte que ce sont souvent des Français rapatriés, donc des cas différents de l'Europe. Et... le travail ici, étant donné qu'il n'y a qu'une section consulaire, il y a tout à faire.
Alors tout ça se présente comment ? J'ai vu dans la ville énormément de Français, mais ils ne viennent pas tous vous voir.
Non, c'est-à-dire les Français qu'on voit, ce sont les Français qui sont au bout du rouleau, qui ont besoin de nous. C'est-à-dire soit qui ont besoin d'argent, qui ont besoin d'être rapatriés, qui ont besoin de papa et maman, qu'ils ont quitté il y a quelque temps.
Alors ils viennent vous voir parce que ça ne va plus ?
Ça ne va plus, ou ça tourne plus rond, ils ne se sentent pas bien, ils sont malades. Très souvent, ils sont malades. Ils ont besoin d'argent.
Et dans ce cas-là, qu'est-ce que vous leur dites ? Vous pouvez faire quelque chose pour eux ? Parce que finalement, un consul, ce n'est pas ni un hôpital, ni un camp d'entraînement.
Au point de vue monétaire, on ne peut rien faire. On n'a pas de fonds spéciaux pour eux. Parfois, on leur paye une visite médicale quand le cas est vraiment très urgent, c'est-à-dire le type est atteint de jaunisse infectieuse ou des trucs comme ça, on lui paye une visite médicale et souvent on avance les frais d'hospitalisation, c'est-à-dire qu'on demande, entre-temps, on demande aux parents de régler la note et en fait on prend ça en charge. Quoi.
Et puis ils vous remboursent après, j'imagine, les parents.
Après, oui. Bien souvent, le type n'est pas encore sorti de l'hôpital que le remboursement arrive.
Vous pensez, c'est très difficile à estimer, mais qu'il y a combien de Français, qu'il y a eu combien de Français cet été à Katmandou ?
Français de passage ou des Français qui ont résidé depuis longtemps ?
Bon, bah, essayez de donner des chiffres de tout ordre. Enfin.
Je sais pas, en fait, je sais pas, parce que ici, il y a eu énormément de gens cet été quand même. Il y a eu, je sais pas, environ 10 personnes par jour en cette ambassade, donc... ça peut faire environ, je sais pas, une centaine de Français par mois, facilement.
Et ce que vous voyez, ce sont des Français qui ont des problèmes.
Non, j'entends un Français de passage, c'est-à-dire le touriste normal qui est venu en voiture, qui est venu à partir de Paris, et puis c'est tout,
le
voyage.
D'accord, oui.
Maintenant, le Français qui a besoin de nous, c'est... Il n'y en a pas tellement quand même, il y en a peut-être en moyenne... un par semaine, quoi.
Ah, quand même, oui.
Quand même un par semaine.
Et c'est là toute l'année où il y a des périodes de pointe l'été, j'imagine. Ce qui correspond aux vacances scolaires en Europe.
Il y a des périodes de pointe, effectivement. Et il y a eu surtout la période de pointe après mai. Il y a beaucoup de types qui ont quitté la France après mai.
Ah, ça, c'est intéressant, parce qu'on ne le savait pas de France. Il y a eu certains départs de France.
Oui, on a constaté que quand même, il y avait pas mal de types qui avaient des cartes d'étudiants de la faculté de Nanterre, donc... c'est assez significatif. Maintenant...
Non mais là, ça s'explique par des jeunes gens qui, psychologiquement, on a soudain eu marre, entre guillemets, de la France. ou qui risquaient d'avoir des ennuis en France et qui sont partis pour certaines
non,
raisons.
Non, je ne crois pas qu'ils risquaient d'avoir des ennuis en France, mais qui sont retrouvés, ayant pris position peut-être assez activement pendant le mois de mai et pendant les autres mois qui ont suivi, et puis qui, quand tout s'est arrêté brusquement, n'avaient plus rien à faire en France, c'est-à-dire qu'ils étaient complètement déboussolés, et il fallait faire quelque chose, donc ils sont partis.
Alors ils sont partis vers Katmandou, mais alors pourquoi Katmandou, selon le monde?
Ils sont peut-être pas partis vers Katmandou au départ de Paris, ils allaient peut-être pas vers Katmandou, ils allaient peut-être vers Istanbul, vers autre chose. Mais en fait, il y a quand même l'attrait de la facilité, c'est-à-dire de la drogue facile. À Katmandou, ça existe, on ne peut pas passer sur le fait de ne pas le savoir. Et puis, ils ont commencé à fumer, je ne sais pas, sans doute ils doivent commencer à Istanbul. Ensuite, ils n'étaient peut-être pas hippies au départ de Paris, mais ils ont rencontré à Istanbul un groupe de hippies, ils sont devenus hippies, ils sont partis vers l'Afghanistan, et d'Afghanistan, il y en a qui ont commencé à fumer très sérieusement, il y en a même qui ont commencé à tâter à l'héroïne, et qui ont continué sur l'Inde.
अर्जी करके लेके आ संदेश कुछ हाल मेरो तय ऐसो सुनइए लौटे के आ मैं पिया हमारे कुछ हाल मेरो तय ऐसो सुनइए लौटे के आ मैं पिया हमारे रही ना पाओ मैं तुम्हारी सजनिया हुई के तुमसे दूर हुई के तुमसे दूर जा उड़ जा रे पवन संग लेके प्रीत पिया के देश हाल मेरो जा अर्जी करके लेके आ संदेश
Chant de Paola, je ne sais pas si on dit comme ça, en tout cas ça a été enregistré par Frédéric Grimaud, en 2010, lors d'un de ses voyages au Népal. On a eu un peu plus d'informations, on vous l'annonçait dans l'intro de cette émission qu'on devait être en sa compagnie. Bon voilà, on l'excuse, il a eu un empêchement, voilà, ça arrive à tout le monde. On va, pour la peine, écouter un autre extrait d'une de ses captations.
कोरेर प्रेम पत्र मायालु लाही दिन किन सकिन राखेर मन भित्र मायालु लाही भन किन सकिन तिम्रो मायामा मत परछायामा छाया छायामा तिम्रो मायामा मत परछायामा छाया छायामा यो आँखा मेरो टोलाइरहन्छ त्यो गोरेटोमा कुरी बसु तिमलाई सधैँ त्यो डो बाटोमा तिम्रो मायामा मत परछायामा छाया छायामा यो मनमा सधैँ सम्झिरहन्छ राखी तिमीलाई भन्न केही सक्दिन भेटेर तिमीलाई तिम्रो मायामा मत परछायामा छायामा छायामा कोरेर प्रेम पत्र माया उलाही दिन किन सकिन राखेर मन भित्र माय लुलाही भन्न किन किन सकिन तिम्रो मायामा 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 मत परछायामा छाया छायामा तिम्रो मायामा 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 मत परछायामा छायामा छायामा थैंक यू एवरीवन
ओके धन्यवाद सरिता
धन्यवाद
Voilà, c'est ainsi que se termine ce nouvel opus des Bruits du Monde. Merci à vous Manon, Laurent et Vivien de m'avoir accompagné ce soir.
Ce fut un plaisir.
Évidemment, je l'espère.
Comme à chaque fois.
Voilà, bonsoir.
Merci à vous amis auditrices et auditeurs à l'oreille attentive. Cette émission sera évidemment à retrouver en podcast et à télécharger sur le site internet de la radio Principe Actif ou sur notre page Facebook Les Bruits du Monde. Nous, on se retrouve l'année prochaine. Ce sera le mercredi 11 janvier à 20h. On vous souhaite une bonne soirée à l'écoute des programmes de Principe Actif et des belles fêtes de fin d'année. C'est ce qu'on fait hein, à peu près.
C'est ce qu'on fait dans l'usage.
Voilà.
Joyeuse fête.
Joyeuse Pâques, en effet.
Joyeuse Pâques, voilà, histoire d'être original.
Eh bien, une bonne fin de soirée. Donc, à l'écoute des programmes de Principe Actif.